finalement, il est où ? Qu'est-ce qu'on a comme moyen, comme outil ? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce qu'on chante soit une réalité spirituelle, concrète, dans nos vies et dans notre relation à Dieu ? Alors j'espère répondre en toute petite partie à ceci. Et je vais le faire au travers d'un texte que j'ai médité ces derniers temps parce que j'ai fait une activité avec la Ligue et puis il fallait faire les méditations. Et j'avais fondamentalement aucune idée, donc je me suis dit je vais regarder dans le guide le texte qu'il y a. Et c'est tombé sur Nombre 28. Je me suis dit super, ben, ce n'est pas les textes qui spontanément on va dedans. Et je les ai médités et étudiés et je vais vous laisser quelques éléments par rapport à ça. Et à mon avis, ça donne quelques réponses à cette question. Qu'est-ce qu'on a finalement pour nous aider à nous souvenir que Dieu est là ? Nombre 28, vous êtes prêts ? Je vais lire un bon bout. Hein. L'Éternel parla. Alors moi j'ai second la colombe, c'est possible que ce ne soit pas tout à fait la même, mais justement les différences, c'est ça qui est intéressant. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux fils d'Israël. Tu leur diras, « Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon oblation, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. » Tu leur diras, « Voici le sacrifice consumé par le feu que vous présenterez à l'Éternel. Chaque jour, deux agneaux d'un an sans défaut comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Puis alors pour l'offrande, un dixième d'épha de fleurs, de farine pétrie dans un quart d'un d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel offert au mont Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Bon, la libation, ce sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de liqueur à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut et pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste de sabbat pour chaque sabbat, en plus de l'holocauste perpétuel et de la libation. Ça va toujours. Je vais continuer. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste de l'Éternel deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, trois dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour le bélier, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, un dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. Et on offrira à l'Éternel un bouc pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel et de la libation. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation et vous ferez aucun ouvrage servile. Vous présenterez à l'Éternel en holocauste consumé par le feu deux jeunes taureaux, un bélier, et vous aurez 7 agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande correspondante de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour un taureau, 2 dixièmes pour un bélier. Et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc pour le péché afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste du matin qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira en plus de l'holocauste perpétuel et de la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun ouvrage servile. J'arrête là ma lecture, ces textes. Je devais amener ça comme méditation, ces textes. C'est quoi vos impressions quand vous avez vraiment tout écouté ? Vous avez écouté l'Éternel parce que c'est parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors tout d'abord, un petit contexte pour saisir peut-être un peu mieux ce qui est dit. Déjà, chapitre 28-29, ça fait, il faut les lire ensemble. Je ne vais pas tout vous lire, mais ça fait un tout. Et il traite de la même question, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de la vie errante dans le désert. Le peuple va entrer dans la vie sédentaire, donc il va s'installer, et il faut trouver un moyen pour continuer à manifester la présence de Dieu, parce que la nuée ne sera plus là. Et comment on va faire ? Et en fait, ces deux chapitres répondent à cette question, comment manifester la présence de Dieu, alors que, j'ai envie de dire, le côté miraculeux qu'il y avait là dans l'histoire du peuple n'est plus. Et voilà comment ils vont faire. Donc on a déjà là, rien que dans cette question-là, rien que dans le contexte, on a de quoi méditer. Comment on manifeste la présence de Dieu aujourd'hui, puisqu'on sacrifie plus grand-chose, en tout cas en termes d'animaux. Comment on fait ? Quel acte, quel rite, quel symbole est-ce que nous avons pour manifester cette présence de Dieu ? Tout d'abord, vis-à-vis de la société, comment l'Église montre la présence de Dieu alors que beaucoup pensent qu'il n'est pas là, voire qu'il n'existe pas. Comment est-ce qu'on le témoigne ? Et puis la deuxième question, peut-être, c'est ce que je disais par rapport au chant. Quand on a ce sentiment qu'il n'est franchement plus là, qu'est-ce qu'on a pour nous aider à nous dire « oui, sa promesse d'être toujours là est vraie et ça m'aide » quand mes émotions, mes pensées, mon expérience me disent le contraire. Qu'est-ce que j'ai pour m'aider à me dire « Dieu ne m'abandonnera jamais ». Les deux premiers versets que nous avons lus posent l'essentiel. Je les relis, des fois que vous n'en souveniez pas. L'Éternel parle à Moïse et dit « Donne cet ordre aux fils d'Israël. Tu leur diras, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon oblation, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, qui me sont d'une agréable odeur. » On a pratiquement tout là-dedans. Première chose qui me frappe, c'est un ordre. Puis moi, comme c'est un mot que je n'aime pas, je suis quand même allé voir dans l'hébreu, je me suis dit « peut-être ça ne veut pas dire ordre ». Pas de chance. C'est un ordre de Dieu. C'est intéressant que pour que l'être humain manifeste la présence de Dieu, Dieu doit lui dire et l'ordonner comment tu dois faire. Il connaît tellement l'être humain. Et notre capacité à finalement peu le manifester. Donc il est obligé de nous donner cet ordre. Voilà comment tu vas faire. Donne cet ordre. Il connaît notre capacité de mémoire, oublieuse des bienfaits de Dieu, pour nous souvenir de tout ce qui ne va pas. Et pourtant, tellement de grâces et de bienfaits de Dieu sont là, jour après jour. Il nous ordonne donc d'avoir des moyens, des signes, des symboles pour nous aider à manifester la présence de Dieu quand ce n'est plus le miracle qui le fait. Qu'est-ce qu'on a ? Deuxième élément qui est très frappant, qu'est-ce qu'on offre à Dieu dans ce texte ? Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe dans ces deux premiers versets. Mon oblation, mon sacrifice. On n'a rien à nous. En fait, ce qu'on offre, c'est simplement qu'on rend à Dieu ce que lui nous a déjà donné. Changement de paradigme total. Et ça, pour des gens qui ont des tuyas et des propriétés privées, il est bon de se souvenir que rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète parce que j'adore cette phrase de John Stott qui dit « Quand l'offrande vient, et ça va arriver, ne vous inquiétez pas, la question est, non pas combien de mes biens je donne à Dieu, mais combien de biens de Dieu je garde pour moi. Parce que rien ne nous appartient. tu offriras mon oblation, mon sacrifice. Tout appartient à Dieu. Et en fait, le signe qu'on va lui rendre, c'est juste lui rendre ce qui est déjà à lui. Et ça, c'est franchement un changement profond. Surtout en plus qu'aujourd'hui, plus je possède, plus je suis. On existe au travers de ce que nous avons. Alors nous, chrétiens, on doit juste rappeler que nous n'avons rien. On est juste de passage sur cette terre avec Dieu et il nous donne des choses à gérer et on fera du mieux qu'on peut. C'est ça déjà que ça nous rappelle. Premier signe peut-être à manifester, eh ben dire qu'en fait, on n'a pas grand-chose à nous, voire rien du tout. Ensuite, on remarque qu'il y a deux choses qui sont données, des sacrifices et des offrandes. Et ça, je vais m'arrêter un petit moment sur ces deux mots, je dirai un peu plus tard. Mais souvent, la difficulté qu'on a, nous qui sommes après Jésus-Christ, c'est qu'on a réduit derrière à celui du Christ, puisqu'en plus, il a tout accompli. Et finalement, derrière ce mot, qu'est-ce qu'on met ? Et la question que ce texte va nous poser, et je vous la pose déjà, quel sacrifice faisons-nous encore ? Non pas pour compléter le sacrifice du Christ, puisqu'il a tout fait, mais pour manifester sa présence. Paul a dit plusieurs fois, « Je souffre, c'est pour compléter les souffrances du Christ. » C'est étonnant comme phrase. Quel sacrifice aujourd'hui faisons-nous encore pour manifester la présence de Dieu ? Et puis le deuxième élément, c'est l'offrande. Et la question que ça nous pose, c'est qu'est-ce qu'on offre de très concret à Dieu pour manifester sa présence ? Qu'est-ce qu'on sacrifie ? Un mot qu'on n'aime pas du tout, mais je vous rassure, je vais vous l'expliquer un peu. Et qu'est-ce qu'on offre ? Mon offrande, mes sacrifices, et tout cela. Et je termine par cette dernière phrase de ce verset 2. Je ne termine pas la prédication encore, mais un petit bout. Qui me sont par le sacréable odeur. Nous, on associe, de par le sacrifice du Christ, souvent sacrifice à péché. Et on met les deux choses ensemble. Dans ce texte, 13 fois vous aurez la notion de péché, 57 fois vous aurez la notion d'un sacrifice qui est d'une agréable odeur à Dieu. Donc la notion de péché, oui, est présente, mais finalement, peu par rapport à un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu. Et est-ce qu'on arrive encore à se dire, même si c'est difficile, que quand j'offre quelque chose à Dieu, quand je suis dans cette dynamique de sacrifice, est-ce qu'on arrive encore à se dire, c'est d'une agréable odeur à Dieu ? Il aime ça. Et c'est un refrain dans tout ce texte. Vous faites cela et ça plaît à Dieu. J'ai pas du tout aimé méditer ce texte personnellement, parce que ça a remis plein de choses en question. Sacrifice, offrande, tout ça, ça plaît à Dieu. Un peu contraire à qui je suis. Moi, j'aime bien que ça ne me coûte pas trop quand je fais quelque chose. Donc, comment je vais faire avec ça ? Je continue encore un petit moment, j'ai le temps. Ça va ? Je continue. La question de sacrifice et offrande. La première chose que ça me dit, parce que je suis frappé, c'est le nombre de fois qu'ils doivent le faire. Matin, soir, une fois par mois, pendant les fêtes. On a l'impression que c'est tout le temps. C'est énorme. Puis une fois par... Donc c'est matin, soir, au début de, le dimanche, donc sabbat, au début de chaque mois et toutes les fêtes. Donc on rend compte quand même que finalement, les sacrifices, c'est ce qui peut et doit manifester Dieu, c'est régulier, c'est souvent, et moi j'ai jamais tué d'animal personnellement, ou sans faire exprès, et bah, comme c'était en voiture, c'était rapide. Mais là, en fait, on se rend compte que ça prend du temps. Aller vers Dieu, manifester Dieu, prend du temps. Et nous qui sommes nouveaux dans une société, alors d'un côté je possède donc je suis, mais le deuxième c'est j'ai pas le temps, Dieu nous dit, ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du temps d'aller vers Dieu, de le manifester, d'être dans sa présence. L'instantané, il n'y a que le café. C'est pas possible instantanément être dans la présence de Dieu. Il va falloir prendre le temps. Et toute cette notion de sacrifice, d'y aller matin, soir, début. Puis pas de chance, quand vous allez au début de chaque mois, en plus vous dégardez celui du matin et du soir. Et puis en plus, si le dimanche, un début de chaque mois, vous rajoutez matin et soir. Tu fais quoi de ta journée? Ça prend du temps. Les signes, les rites, vos habitudes de présence avec Dieu. Quel temps ça? Est-ce que vraiment matin, soir, début de chaque mois, dimanche? Puis le dimanche, il ne va pas falloir déborder à 11h30. Hein. Ça risque. Je reviens juste deux, trois réflexions sur les mots qui sont utilisés, parce qu'en français, on a oblation, libation, sacrifice, offrande. Je vous donne quelques éléments. Le premier que je trouve intéressant, qui est dans le verset 2, que chez moi, c'est traduit par oblation, mais vous pouvez trouver sous le mot offrande. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot qui signifie s'approcher. Et ça, je trouve intéressant. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut se dire, tiens, mon sacrifice ou mon offrande, ce n'est plus un sacrifice. C'est comment je m'approche de Dieu. Comment je vais vers lui. Et ça, c'est le générique. On va dire, c'est ce mot qui est utilisé au verset 2 n'est utilisé que là. Ensuite, il y a plein d'autres mots. Donc la première question, c'est je manifeste Dieu en m'approchant de lui. Et ça, je trouve quand même assez intéressant, parce que du coup, le mot sacrifice prend un autre sens. C'est comment je vais aller vers ce Dieu, et peut-être que pour manifester Dieu, je dois m'approcher de lui un peu plus, et plus souvent, et plus régulièrement. Et peut-être que le sacrifice qu'on doit faire, c'est sur le temps, justement, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ça ? Et ça, c'est d'une agréable odeur à l'Éternel. Il aime ça, même si ça nous coûte. Le deuxième mot qui est utilisé, c'est le mot que vous avez entendu, qui vient souvent, et un mot qu'on utilise aussi pas mal pour parler du Christ, c'est l'Holocauste. L'Holocauste, c'était vraiment ce qu'on donnait à Dieu totalement. C'est-à-dire que souvent, les sacrifices, il y avait une partie pour Dieu, puis l'autre partie qui nourrissait les prêtres. Là, l'Holocauste, c'est totalement brûlé par le feu. On récupérait rien du tout. Et derrière ce mot, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la question de monter, élever. C'est ça que ça signifie l'Holocauste. Monter vers Dieu, élever vers Dieu quelque chose qui lui fait plaisir. Donc peut-être manifester sa présence, c'est un, s'approcher de Dieu, et deux, pouvoir monter et élever quelque chose qui lui fait plaisir. Et ce qu'on constate avec l'Holocauste, c'est qu'on ne peut jamais le faire par soi-même, on doit toujours avoir un intermédiaire. Pour nous, l'excellence de l'Holocauste, ça sera le Christ. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on offre encore aujourd'hui pour manifester sa présence ? Donc ça, c'est le deuxième mot. Et les derniers qui sont, on ne sait pas toujours trop quoi en faire, c'est les questions d'offrande ou de libation. Du blé et du vin. Est-ce que ça nous fait penser à quelque chose ? Du pain et du vin, pour se souvenir. Et c'est ça. Mais derrière ce qu'on symbolique du pain et du vin, il y a aussi toute la question que c'était ce qu'ils cultivaient. Donc ils allaient donner à Dieu quelque chose qu'ils avaient besoin pour se nourrir. Et pour beaucoup, ce n'était pas le surplus de blé et le surplus de vin. C'était ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. On pourrait dire l'essentiel. Et du coup, la question, moi, qui m'a le plus interrogé là-dedans, c'est qu'est-ce que j'offre à Dieu concrètement ? Bien sûr, ma louange, mes prières, un peu de mon temps, mais quelque chose dont j'ai besoin pour me nourrir. Est-ce que j'ose aller jusque-là, matin, soir, début de chaque mois, dimanche, pendant les fêtes ? Qu'est-ce que j'amène à Dieu concrètement ? Parce que là, il n'y avait pas seulement les sacrifices, c'est en plus des sacrifices, tu offrais quelque chose. Est-ce qu'on imagine ce qui est demandé au peuple de Dieu? Tout ça pour manifester sa présence quand le miracle ne sera plus là, pour se souvenir. Les sacrifices pendant les fêtes, je donne juste des éléments qui sont plus pendant les fêtes, parce que eux, ils avaient les fêtes juives, ils l'ont toujours, nous on a les fêtes chrétiennes, qui sont là pour souvent nous rappeler des éléments que le Christ a vécu. Et pendant les fêtes, qu'est-ce qui est demandé en plus? Il y a la sainte convocation, donc vraiment tu mets un temps à part pour ça. Certaines fois c'était 7 jours, franchement je ne sais pas quand c'est qu'ils travaillaient. Est-ce que ces fêtes que nous avons aujourd'hui, qui sont souvent des jours de congé, qui nous font du bien, qui sont pour moi, en quoi on retrouve cette sainte convocation de mise à part où tu vas prendre du temps pour te souvenir et offrir quelque chose à Dieu? Ça paraît un peu radical dit comme ça, mais il y a peu de nuances dans ce texte. C'est ce qui est embêtant. Sainte convocation, c'est ce qu'on trouve en plus dans ce texte. La longueur qui est prise pour faire mémoire. Ça prend du temps, je l'ai déjà dit. Et puis, il y a cette demande de ne pas faire d'œuvre servile. Ça, c'est seulement pendant les fêtes. Et l'œuvre servile, c'était vraiment de libérer un peu les esclaves ou les serviteurs pour qu'ils puissent, eux aussi, à ce moment-là, être dans la présence de Dieu. Alors nous, on n'a plus trop d'esclaves, mais on peut quand même nous interroger sur notre rapport au travail pendant ce temps-là. Parce qu'en général, quand on prend congé, c'est pas ça nous fait du bien, ça nous libère un peu de notre travail. Donc ça, c'est bien, l'œuvre servile en moins, mais la question que ce texte nous pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand il n'y a plus ces œuvres serviles. Et puis on trouve aussi des sacrifices en lien avec le péché. Et je termine par cette notion, c'est très festif, donc rassurez-vous, c'est un bon moment. Et tout ça est d'une agréable odeur à l'Éternel. Cette fois, je termine. Personnellement, franchement, je n'ai pas de réponse aux questions que je vous ai posées. Ça m'a sérieusement remis en question, parce que déjà, un, je n'avais pas envie d'étudier ces textes, et puis plus j'allais dedans, et plus je continue, parce que du coup, je suis toujours dedans, ben, c'est dérangeant. Ça remet en question mes paradigmes de « j'ai des biens que je possède » et Dieu me dit « non ». Ça remet en question mon rapport au temps et ça met en question qu'est-ce que j'offre vraiment à Dieu de très concret. Qu'est-ce que j'y sacrifie? Derrière le sacrifice, il y a une notion de coût quand même et on n'aime pas trop ça. Mais Dieu pose quand même cette question. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie ou qu'est-ce qu'on a mis en place en tant que communauté, comme rite, comme symbole, comme élément pour finalement dire il y a quelque chose de particulier avec Dieu? Pâques, Ascension, Noël, Pentecôte, à part qu'il y a moins de monde au culte, quel signe donnons-nous? Qu'est-ce qui est mis en place? J'ai le beau rôle parce que j'ai les questions, mais pas les réponses. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a derrière ce texte. Qu'est-ce que j'offre concrètement à Dieu? On parle de la dîme, de l'aumône, mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce que je donne quotidiennement, matin et soir, à Dieu pour m'approcher de lui, pour monter vers lui, pour manifester sa présence? Moi, c'est les questions qui me restent, qui me perturbent un tout petit peu, mais j'aime aller dans ce sens-là. Heureusement, il y a le Christ qui a tout fait pour nous. Donc si je vous ai un tout petit peu culpabilisé, rassurez-vous, le Christ nous libère. Prenez pas du tout ça comme une culpabilisation ou j'en fais pas assez, mais plutôt finalement comment on s'approche de Dieu, comment on le manifeste, comment on monte vers lui. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça la question fondamentale que ce texte nous pose. Je vous invite à prier. Il est vrai, Seigneur, qu'il y a des textes qu'on ne lit pas beaucoup, et peut-être que ce n'est pas pour rien. c'est parce qu'ils sont profondément dérangeants. Ils viennent un peu à l'encontre de, finalement, du schéma dans lequel on est, dans notre petit confort, dans notre rythme. Mais merci Seigneur parce qu'ils existent. Et merci parce que tu nous adresses cette parole avec amour, avec bienveillance, avec tendresse. Tu ne dis pas ça pour faire reproche, mais tu dis ça parce que tu nous aimes. Tu dis ça parce que tu as tellement envie qu'on s'approche de toi. Tu dis ça parce que c'était agréable, toi, quand on t'offre ce que tu nous as déjà donné. Tout cela est bon pour toi. Alors ma prière, moi en tout cas j'en ai profondément besoin, c'est que par ton esprit tu m'aides à ce que ces paroles deviennent réalité dans ma vie, et surtout que je trouve des moyens pour vivre un petit bout de ce chemin que tu proposes. Le peuple d'Israël n'a jamais mis en place totalement ce que tu as demandé. Nous on n'y arrivera pas, mais tu fais grâce et tu nous demandes d'avancer pas à pas. C'est ce que je te demande pour chacun d'entre nous. Amen.